France Info.
Douceur pour la saison sont tombées vers la Manche. Dans l'Oise également, plusieurs records à Beauvais. Une station météo d'ailleurs ouverte en 44. Il n'avait jamais été enregistré une valeur aussi élevée. Alors 12 degrés, c'est vrai que c'est pas très impressionnant. Mais en revanche, dans le sud-ouest, avec l'effet de fun, ce vent de sud là qui dévale la montagne, c'est monté à 28,3. Alors pas de vent de sud, pas des valeurs aussi élevées dans le sud-ouest. Ça sera assez bien réparti entre 15 et 21 degrés. 20 à 21 en Ile-de-France comme à Bourges, Clermont-Ferrand et comme dans le sud-ouest.
Merci beaucoup Christine Peña. Merci à tous d'être à l'écoute de France Info. Il est 5h. Et à la une ce matin, la très lente décrue en cours dans l'ouest de la France. Deux départements encore en rouge face au risque de crue. Les inondations des derniers jours ont fragilisé des digues, des infrastructures financées par les communes. Certaines demandent de l'aide à l'État. Sa gestion était critiquée depuis des mois, des années. Le casse et la grève du personnel a eu raison de Laurence Descartes. La patronne du Louvre démissionne. Dans l'actu également, c'est 40 millions d'euros d'aide européenne pour les viticulteurs français. Et puis quand un club norvégien élimine l'Inter Milan en Ligue des champions de football. Bodø/Glimt qualifié en 8e de finale de la compétition. Le soleil est de retour sur une grande partie de la France, mais les sols sont encore très humides. Pire, des inondations sont toujours en cours, même si la décrue a débuté. Le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime sont toujours en vigilance rouge, quand la Loire-Atlantique et la Charente sont en orange. Des crues qui ont fragilisé des digues ces derniers jours. Les opérations de réparation s'annoncent coûteuses pour les communes, des villes qui dénoncent le manque de financement de l'État. Situation en cours dans l'agglomération Val-de-Garonne, dans le Lot-et-Garonne. Rémi Brancato, les équipes sont sur le terrain depuis hier pour tenter de répertorier les dégâts.
Avec son bureau d'études, Sylvain Chardon inspecte 90 km de digues de l'agglomération Val-de-Garonne, comme ici à Villeton, au sud de Marmande.
La digue s'est ouverte en deux.
Une brèche de 40 mètres de largeur, les réparations vont prendre des mois.
S'il doit y avoir une crue de printemps, les digues ne seront pas fonctionnelles comme elles doivent l'être, ça c'est clair.
Un peu plus loin, cette autre digue est fragilisée.
C'est un cratère en pied de digue.
Conséquence de la surverse, quand le niveau de la Garonne l'a dépassé, explique Jean-Marie Fernandez. Il dirige le service GEMAPI qui gère les digues à l'agglomération.
On a recensé aujourd'hui une dizaine de brèches de rupture et des surverses comme ça ont été généralisées sur l'ensemble des systèmes d'endiguement.
Les réparations coûteront plusieurs millions d'euros, prévoit Jacques Biliri, le président de Val-de-Garonne.
Ce financement, pour l'instant, on ne l'a pas.
L'État a transféré il y a plus de 10 ans la gestion des digues aux intercommunalités, une charge qu'il estime injuste car leur entretien profite aussi à d'autres.
On ne protège pas un bassin simplement intercommunalité par intercommunalité. Là, au pic de crue, nous avions 300 millions de mètres cubes qui étaient stocké ici, ce qui n'était pas renvoyé sur Bordeaux. On demande des financements à l'État ou on demande à ce que la loi soit revue avec son mode de financement.
La ministre de la Transition écologique appelle à davantage de coopération entre collectivités avec l'appui de l'État.
Le reportage de Rémi Brancato pour France Info et le Premier ministre annonce que près de 300 communes seront reconnues en état de catastrophe naturelle. Après ces inondations, l'arrêté doit être publié aujourd'hui. Le gouvernement promet une indemnisation au plus vite des villes touchées par les intempéries. Et au Brésil, des pluies torrentielles ont cette fois fait au moins 30 morts et des dizaines de disparus. Elle ne devrait pas récolter suffisamment de voix pour être adoptée, sauf énorme surprise. Deux motions de censure seront en débat à l'Assemblée nationale cet après-midi. Une déposée par le Rassemblement national, une autre par la France insoumise. Des motions qui ont été déposées après la présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la feuille de route énergétique du pays présentée par le gouvernement. Le ton était monté hier entre le ministre français des Affaires étrangères et l'ambassadeur américain à Paris. Charles Kushner n'avait plus accès aux membres du gouvernement après ses propos sur l'extrême gauche en France, après la mort du militant nationaliste Quentin de Rancalion. L'ambassadeur se dit finalement disposé à ne pas interférer dans le débat public national. Et dans cette affaire de Ranc, deux assistants d'un député de la France insoumise sont en détention provisoire, affaire qui a créé de nouvelles tensions politiques à gauche. Mais à Lyon, le maire écologiste Grégory Doucet, qui se représente, d'y être prêt à s'allier avec la France insoumise au second tour des municipales dans un mois. Le président américain prononce un discours en ce moment face au Congrès. Il vient tout juste de terminer. Donald Trump accuse l'Iran de développer des missiles pouvant atteindre bientôt les États-Unis. Mais le chef de l'État assure qu'il préfère la voie diplomatique à la guerre. France Info, il est 5h05. Le Louvre n'a plus de présidente depuis hier, 4 mois après le vol spectaculaire des joyaux de la couronne. Laurence Descartes a démissionné et cette démission a été acceptée par Emmanuel Macron qui estime que le musée a besoin d'une nouvelle impulsion. Anne Chepo, pour celui ou celle qui succédera à Laurence Descartes, la tâche s'annonce tout de même difficile.
Sa gestion a été vivement critiquée, mais le départ de Laurence Descartes ne règle pas les nombreux problèmes du Louvre, à commencer par le conflit social en cours, le plus long de son histoire. La grève des agents qui réclament de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire a obligé le musée à fermer plusieurs jours depuis mi-décembre. Le futur ou la future présidente devra aussi poursuivre le renforcement des mesures de sécurité et engager des travaux d'urgence car les incidents se sont multipliés depuis l'automne. Il y a eu en moins de 3 mois 2 inondations et un risque d'effondrement d'un plancher. Il lui faudra aussi statuer sur le projet Louvre Nouvelle Renaissance, très critiqué. Porté jusqu'à son départ par Laurence Descartes et soutenu par Emmanuel Macron, il prévoit, outre des travaux de rénovation, une nouvelle entrée et de nouvelles salles d'exposition, dont une pour la Joconde. Coût estimé, plus d'1 milliard d'euros et son financement n'est pas bouclé.
Les précisions d'Anne Chepo sur France Info, c'est une information de la cellule Investigation de Radio France. La ministre de la Santé va devoir répondre aux questions du Conseil d'État tout à l'heure, la plus haute juridiction administrative. Des questions sur la gestion de la crise des laits infantiles contaminés par une toxine. 4 enquêtes pénales ont été ouvertes après le décès de nourrissons. L'association Atox Alim, qui représente 40 familles, accuse le ministère de minimiser les risques liés à la consommation de ces laits contaminés et d'empêcher aussi les familles d'avoir accès à des analyses. La ministre de l'Agriculture sera au Salon de l'Agriculture tout à l'heure à Paris. Elle rencontrera Christophe Hansen, le commissaire européen à l'agriculture également. Visite dans un contexte tendu après la signature d'un accord commercial avec les pays sud-américains du Mercosur et en pleine négociation sur le budget de la politique agricole commune européenne, la PAC. Fabien Cazot, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Vous avez rencontré Christophe Hansen avant sa visite à Paris. Il va annoncer une aide de 40 millions d'euros pour les viticulteurs français.
Il se sait très attendu au salon. Le luxembourgeois Christophe Hansen aura la lourde tâche de représenter aujourd'hui la Commission face à des agriculteurs français très remontés contre l'Union européenne. Le commissaire à l'agriculture se dit prêt au dialogue.
La colère est évidemment compréhensible, mais ce n'est pas la solution d'avoir de la colère. Je pense qu'il est important de parler des préoccupations majeures qui se posent à nos agriculteurs et producteurs alimentaires et de trouver des solutions.
Christophe Hansen compte notamment annoncer une aide directe aux viticulteurs français qui ont de plus en plus de mal à écouler leurs stocks. Près d'1 million d'hectolitres seront retirés du marché contre indemnisation.
Le secteur du vin est sous pression dû à un changement du comportement de nos consommateurs, mais aussi des marchés internationaux où les débouchés deviennent moindres à cause des tarifs imposés par l'administration Trump. Donc, on va procéder à un versement de 40 millions d'euros qui pourra aussi être complété par la France. Donc, je pense que c'est une bouffée d'oxygène au secteur.
Le commissaire à l'agriculture compte le répéter et le démontrer aujourd'hui au salon. Le budget de la politique agricole commune ne baissera pas dans les prochaines années, et ce, malgré les autres priorités que se donne désormais l'Union européenne, notamment en matière de défense.
Fabien Cazot, correspondant de France Info à Bruxelles. Le match sera bien sûr à suivre en direct sur France Info. Dès 21h, le PSG affronte Monaco. Match de barrage, retour de la Ligue des champions de football. Les Parisiens tenants du titre partent avec un petit peu d'avance. Ils ont gagné au match aller 3-2, mais rien n'est fait. Et hier, le club norvégien de Bodø/Glimt a éliminé le finaliste de l'année dernière, l'Inter Milan. Bodø/Glimt s'est imposé 2-1 sur la pelouse du vice-champion d'Europe. Un exploit monumental des Norvégiens, Antoine Brard.
C'est la première fois que Bodø/Glimt participe à la Ligue des Champions. Arriver si loin dans la compétition est incroyable. Avant cela, jamais un club norvégien n'avait gagné un tour éliminatoire de Champions League. Pourtant, il n'y a pas de star dans cette équipe. Elle est composée presque uniquement de joueurs norvégiens. Ils étaient 9 titulaires, par exemple, face à Milan. Seul un Russe et un Danois faisaient exception. Plus fou encore, leur championnat s'est terminé dès le mois de novembre. Ils n'ont pas le même calendrier qu'en France, en Espagne ou en Italie. Depuis 3 mois, ils ne jouent donc qu'en Ligue des Champions, mais ça ne les empêche pas d'enchaîner les grandes prestations. En phase de poule, ils ont déjà battu l'Atlético Madrid, Manchester City et maintenant l'Inter Milan, que des grosses équipes européennes. Assez dingue pour un club d'une ville d'à peine 50 000 habitants.
Antoine Brard pour France Info, il est 5h09 Et nous retrouvons Christine Peña pour la météo. Et il y a aujourd'hui un temps printanier en France.
Mais oui, et pourtant on n'est qu'en février, qui est un des mois les plus froids de l'année.
Et pas bien, cette fois là.
Là non, c'est le printemps effectivement, avant l'heure, ça sera le 20 mars. Hein. Après cette longue période de pluie, les inondations ne sont toujours pas résorbées d'ailleurs. C'est le soleil et la douceur qui prennent le relais avec des pointes de 20 à 21 degrés du sud-ouest au centre du pays, hein, vers Clermont-Ferrand, Limoges, Bourges, également jusqu'à Paris. Les 24 degrés seront atteints près des Pyrénées. On est souvent de 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison et le soleil inonde totalement le pays.
Merci beaucoup Christine Peña.
Bonjour. Bonjour, c'est Sting et Shaggy sur France en feu.
Jusqu'à vendredi, Sting et Shaggy sont les invités du Monde d'Élodie. Ils nous racontent la genèse du spectacle musical The Last Ship, inspiré de l'enfance de Sting.
Lorsque j'étais enfant, je me suis dit peut-être qu'un jour tu travailleras dans un chantier naval et je ne le souhaitais pas, je voulais faire de la musique.
Sting et Shaggy, dans le Monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 10h50, 15h50 et 21h50 sur France Info.
À retrouver sur l'application Radio France et sur franceinfo.fr.
Merci d'écouter France Info, menu de la prochaine demi-heure. C'est un texte qui nous touche tous. Les députés vont se prononcer aujourd'hui sur la proposition de loi sur l'aide à mourir. Impossible pour l'heure de dire s'il va être adopté. Les détails avec notre spécialiste santé à France Info. Nous serons aussi sur les routes où les jeunes conducteurs doivent faire face au comportement, les incivilités des autres automobilistes. Et tout de suite, direction le Louvre, le musée parisien qui n'a plus de directrice.
France Info, 5h-6h, Maureen Suignard.
Le cambriolage du Louvre en octobre dernier a entraîné sa chute. 4 mois après le casse du musée parisien, la directrice Laurence Descartes a présenté sa démission qui a été acceptée par l'Élysée hier. Le casse a mis en lumière des failles de sécurité, mais surtout Laurence Descartes, arrivée en 2021, n'a jamais réussi à obtenir le soutien des équipes. La grève perlée du personnel depuis mi-décembre est toujours en cours pour des augmentations de salaire. Alexandre Portier, député Les Républicains et président de la commission d'enquête parlementaire sur la sécurité des musées souhaite désormais que le plus célèbre musée du monde retrouve de la sérénité et que des mesures d'urgence en matière de sécurité soient prises.
C'est une démission qui est un retrait et je pense qu'il était à la fois sage et responsable. Très clairement, vous avez mentionné toutes les difficultés qui émaillent malheureusement aujourd'hui l'image du Louvre. Il est temps qu'on sorte de cette impasse et ce retrait de la présidente doit permettre maintenant de passer à autre chose, de remettre les compteurs à zéro et de retrouver de la stabilité, de la sérénité.
Alors un petit point planning avant d'évoquer toutes ces actions de Laurence Descartes et tout ce qu'il faudra faire après. Alexandre Portier, elle devait être interrogée à la commission d'enquête Laurence Descartes. Est-ce que cette démission chamboule tout ?
Alors en fait, il y a eu deux choses. C'est que cet après-midi, dans le cadre de cette commission d'enquête, nous étions en plein dans une visite surprise au Louvre et nous avons appris la démission de la présidente du Louvre sur la fin de notre visite. Donc c'est vous dire si les choses se sont accélérées très rapidement.
Donc vous n'étiez pas au courant du tout ?
Alors, on l'a appris sur la fin de notre visite. Et effectivement, on devait l'auditionner demain. Donc, on a évidemment compris l'enjeu. Il va y avoir une passation maintenant. L'objectif pour nous n'est pas de compliquer la passation et d'ajouter des difficultés aux difficultés. Donc, l'audition de Laurence Descartes sera reprogrammée. Moi, vraiment, ce que je veux, c'est qu'on puisse retrouver de la stabilité, de la sérénité dans l'établissement. Le Louvre, c'est le vaisseau amiral de la culture et du patrimoine. C'est le visage de la culture française dans le monde. Il faut qu'on retrouve une image qui soit digne de ce nom.
Mais oui, parce que cette démission ne va pas tout résoudre. Faut pas être naïf.
C'est pas qu'une question de personne et tous ceux qui croient à ça évidemment n'ont pas compris le sujet. Et je l'évoquais la semaine dernière, on est face à un problème de défaillance systémique. Les difficultés qui sont accumulées, elles le sont parce qu'on n'a pas voulu changer de philosophie depuis des années et écouter les signaux d'alerte qui ont été tirés. Et ce que j'ai voulu, avec cette commission d'enquête qu'on a lancée suite au vol du Louvre, c'est qu'on ne met pas la poussière sous le tapis. Ça a permis de secouer le cocotier. Tant mieux, mais maintenant, il reste tout à faire.
Oui, mais quand on voit que même dès 2017, on avait connaissance de ces problèmes, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, finalement ?
Écoutez, je ne crois pas. Il y a eu un déni de réalité et il faut parfois, malheureusement, tirer fortement la sonnette d'alarme pour être entendu. C'était l'objectif de cette commission d'enquête. Et maintenant, on va passer à une nouvelle étape. Avec la commission, on va faire des recommandations, des préconisations pour changer en profondeur la gouvernance d'un établissement comme le Louvre, pour qu'il permette d'assurer sa mission fondamentale. C'est d'abord de transmettre notre patrimoine, le transmettre aux générations à venir, le transmettre aussi dans le monde. Et ça veut dire que voilà, il faut revoir un peu les priorités. On a beaucoup mis le moyen sur le festif, l'événementiel. C'est pas ça la mission première d'un musée. La mission première, c'est de protéger les œuvres dont on a hérité.
Donc la première priorité, c'est quoi pour vous? La priorité
d'abord,
la plus importante.
La première priorité, c'est de remettre du collectif dans ce musée. Il y a un mouvement social, comme vous l'avez indiqué, depuis plusieurs mois. Il faut arriver à assainir la situation et à l'apaiser. Deuxièmement, il faut se poser aussi sur les priorités budgétaires pour les années à venir. Il faut très clairement qu'on mette plus de moyens sur la sécurité et qu'on ait un calendrier resserré. On était tout à l'heure au Louvre, où il y avait des fuites d'eau qui malheureusement grignotent et abîment beaucoup trop de pièces. On a eu des infiltrations dans toute une partie du bâtiment. C'est plus possible que le Louvre, qui voilà une image de marque pour notre pays, soit dans cet état-là. Il faut vraiment qu'on redresse la barre d'urgence.
Est-ce que, Alexandre Portier, il est aussi temps, avec cette démission de Laurence Descartes, de se projeter sur le projet colossal Louvre Nouvelle Renaissance, qui prévoit, on l'a dit, une rénovation du bâtiment et la construction de cette nouvelle entrée, de cette nouvelle salle pour la Joconde? Est-ce que, justement, c'est le moment de se projeter sur ce projet?
Il faut se poser la question de sa pertinence, de sa faisabilité, et aussi de sa temporalité. Mais très clairement, je pense que l'heure n'est pas au faste, l'heure est à la sobriété et aussi à la protection des œuvres déjà existantes.
Mais ça veut dire que pour vous, il faudrait carrément l'annuler, ce projet? Il faudrait qu'il n'ait pas lieu?
Je voudrais pas qu'on soit dans une fuite en avant où on part sur des projets de grosse restructuration
parce que
alors
c'est
qu'on est capable de protéger l'existant.
C'est un projet qu'avait beaucoup porté Laurence Descartes et évidemment Emmanuel Macron.
J'attends de savoir ce que le nouveau président ou la nouvelle présidente du Louvre souhaitera faire de ce projet. Est-ce qu'elle sera capable d'entendre le signal d'alerte qu'il y a sur la protection même du bâtiment et des œuvres aujourd'hui qui sont à l'intérieur? Le danger, il est là. Avant de vouloir partir dépenser plus d'argent pour agrandir le site, commençons déjà par protéger ce dont on dispose.
Vous dites qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
Bah, exactement.
Alexandre Portier au micro France Info de Soisigbourg. Son ou sa successeur peut être nommé dès ce matin en Conseil des ministres. Cela doit être le grand texte sociétal du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, un texte annoncé depuis des mois, celui qui pourrait instaurer une aide à mourir en France. Les députés vont voter ce soir en deuxième lecture pour ou contre cette proposition de loi. L'année dernière, en première lecture, les députés avaient largement voté en faveur, un peu plus de 300 voix pour et moins de 200 contre. Bonjour Solène Lehen.
Bonjour.
Mais cette fois, si le scrutin est plus incertain?
Oui, parce que ces derniers jours, pendant l'examen du texte, si sur les critères il y a eu peu de changements, l'aide à mourir pourra être demandée par un malade qui est condamné, qui souffre, qui est lucide et évidemment qui en fait la demande. En revanche, il y a eu un désaccord important sur les modalités de l'aide à mourir. Jusqu'à présent, la proposition prévoyait que la règle, ce soit pour les malades, le suicide assisté. C'est-à-dire qu'il serait autorisé à se donner la mort en s'injectant ou buvant un produit létal. Mais avec une exception. Si ce malade n'est pas physiquement capable de le faire lui-même, alors un médecin ou un infirmier lui donnera le produit létal. C'est ce qu'on appelle l'exception d'euthanasie. Tout cela avait pour but d'impliquer le moins possible des professionnels de santé dont on sait qu'une partie ne souhaite pas participer à l'aide à mourir. Je rappelle que d'ailleurs, le texte prévoit pour ceux qui s'y refuseraient une clause de conscience.
Mais ces derniers jours, des députés ont remis en cause ces modalités?
Oui, des députés de gauche ont souhaité aller plus loin dans l'aide à mourir et leurs amendements ont été votés parfois à une voix près. Ils proposent que les malades aient le choix entre suicide assisté et euthanasie, remettant un peu plus les soignants sur le devant de la scène. Or, la crainte du gouvernement, mais aussi de l'auteur de la proposition, le MoDem Olivier Falorni, c'est que l'équilibre soit rompu, car le texte avait fait l'objet d'un long compromis. Des députés jusqu'ici partisans de cette proposition de loi disent maintenant qu'ils ne la voteront pas ce soir si le texte reste en l'état. Je rappelle qu'il y a déjà plusieurs jours, le Sénat l'a rejeté en première lecture. Donc, avant le vote solennel ce soir, les députés vont à nouveau se prononcer sur cette question, à savoir décider si on laisse le choix aux patients entre suicide assisté et euthanasie. Et le résultat déterminera certainement ensuite le vote ou non de toute la proposition de loi en deuxième lecture.
Solène Lehen, spécialiste santé France Info, merci pour toutes ces précisions. Des appels de phare, des queues de poisson, des insultes. Les automobilistes ne se comportent pas toujours très bien sur la route. C'est même de pire en pire, si l'on en croit ceux qui passent beaucoup de temps en voiture, les moniteurs d'auto-école. France Info reportage, après un récap complet de l'info.
France Info, 5h-6h.
Et il est 5h20, l'info en une minute, c'est avec Sarah Derce, bonjour.
Bonjour.
Et à la une ce matin, Donald Trump prononce son discours sur l'état de l'Union.
Devant le Congrès, le président américain accuse l'Iran de développer des missiles pouvant atteindre bientôt les États-Unis. Donald Trump veut tout de même privilégier une solution diplomatique avec Téhéran. Après les inondations, près de 300 communes reconnues en état de catastrophe naturelle, annonce Sébastien Lecornu. Dans l'Ouest, le niveau des rivières et des fleuves continue de baisser doucement. Le soleil revient après 40 jours de pluie avec des températures records. Achraf Hakimi sera jugé devant la cour criminelle pour viol. Le joueur marocain du PSG a été mis en examen en 2023. Une jeune femme l'accuse de l'avoir violé. Lui assure l'avoir seulement embrassé. Le PSG qui joue ce soir barrage retour face à Monaco pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Match à 21h. Et cette surprise hier, Bodø/Glimt renverse l'Inter Milan en barrage 3-1. Le club norvégien poursuit son rêve européen.
France Info. Vous êtes peut-être stressé de prendre le volant, en cause notamment le comportement des autres sur la route. Près de 7 Franciliens sur 10 se disent insatisfaits du comportement des autres au volant. Résultat d'une consultation de la radio ici avec l'Institut d'études Odoxa à l'approche des élections municipales. Et les principales victimes de ces incivilités, ce sont les apprentis conducteurs. Marie Boéda, vous l'avez constaté dans une auto-école des Yvelines à Conflans-Sainte-Honorine.
Ça fait 30 ans que Marie Martinez tient une auto-école, 30 ans qu'elle enseigne la conduite et qu'elle assiste à des incivilités.
Des gens qui nous collent, qui arrivent et qui vont faire semblant de foncer derrière nous, qui vont nous dépasser en laissant très peu de distance de sécurité, vont se rabattre très vite devant. Beaucoup de gestes de la main, des gens aussi qui râlent, des appels de phare aussi.
Et puis des mots.
Si je me permets, connard. Donc on répond pas, on fait aucun geste et aucun signe.
Règle numéro 1, ignorer ses comportements, surtout que c'est de pire en pire.
Avant, on avait des gens agressifs à certains moments de l'année. Par exemple, veille de vacances scolaires. Là, c'est au quotidien.
Jérôme est professeur de conduite.
Je pense que ça a commencé à partir du Covid, des certaines libertés que les gens ont pris. Je pense que le pas vu, pas pris, ça marche bien. Donc c'est très compliqué pour moi d'avoir signé à des élèves de respecter des règles, alors qu'en réalité, la plupart des gens ne les respectent pas.
Selena pousse la porte.
J'avoue que quand même, ça arrive très souvent. Il peut y en avoir 2-3 par cours. Sur 2 heures, ça fait quand même beaucoup.
Dernier cours avant le passage du permis pour l'étudiante en droit de 19 ans.
Oui, c'est moi.
La bêche.
À peine sortie du parking.
Ah, la première des incivilités, c'est le piéton qui traverse en dehors des passages piétons. Et ce piéton, il a 90% de chance d'être conducteur aussi. 98% des conducteurs, s'ils repassaient leur permis aujourd'hui, ne l'auraient pas.
Attends bien, regarder autour de toi, il n'y a personne.
On laisse Serena se concentrer. Elle va s'entraîner sur une voie rapide. C'est d'ailleurs là que les incivilités lui font le plus peur. Des exemples, personne n'en manque. Pour Evan, 17 ans, assis dans l'auto-école à côté d'une fenêtre, c'était la semaine dernière.
Alors là, ici à la sortie, une personne qui est venue à contresens, dans une voie assez serrée. T'as un petit peu peur parce que tu sais pas si la personne va forcément s'arrêter ou ralentir.
Et c'est encore plus dangereux pour les cours de moto, alerte Marie Martinez, la patronne, lorsqu'un automobiliste dépasse et s'arrête à un feu.
C'est déjà arrivé qu'on fasse tomber un de mes motards.
Les professeurs égrènent quelques solutions. Plus de prévention de la part de la police municipale, plus de radars, ou encore limiter toutes les communes à 30 km/h.
Le reportage de Marie Boéda sur France Info. Et le monde d'Elodie, c'est avec les chanteurs Sting et Shaggy toute cette semaine.
Bonjour Sting.
Bonjour.
Bonjour Shaggy.
Bonjour.
I'm an alien, I'm an Englishman in New York.
beaucoup. Passez la semaine avec nous sur France Info dans le monde d'Élodie pour évoquer vos parcours de vie. C'est ce qu'on appelle un regard croisé, avec parfois des chemins empruntés, assez sinueux, accidentés, qui ont fini par vous permettre à l'un et à l'autre de rejoindre cette route principale qui mène au bonheur de vivre votre passion, c'est-à-dire la musique. Aujourd'hui d'ailleurs, vous êtes réunis sur scène autour du spectacle musical The Last Ship qui sévit à la scène musicale de Boulogne-Billancourt, et ce jusqu'au 7 mars prochain. Il y a notamment un élément majeur dans cette comédie musicale, Sting, c'est le mot et le terme de résilience. C'est quoi la résilience ?
Je pense qu'il est important de connaître sa force et la force que l'on a quand on s'allie aux autres. L'union fait la force. Il ne faut jamais, jamais l'oublier. C'est ensemble que nous sommes plus forts et nous devons être bienveillants avec nos frères, avec nos sœurs, avec les autres. Et je crois très fort en ce sens de la communauté.
Je voudrais qu'on parle de Island of Souls, Sting. Cette chanson, elle prend aux tripes. On a l'impression d'avoir en face de nous celles et ceux qui ne sont pas forcément de ce monde, d'ailleurs.
C'est la première chanson que j'ai composée pour The Last Ship. J'ai composé ce titre en 1990, en hommage à mon père, ce lieu où j'imaginais que mon père pourrait aller après sa mort, une île. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai appelé « The Island of Souls », l'île des âmes, qui parle de mon enfance, de mes craintes, de mes peurs, de mes espoirs aussi.
Ce spectacle musical, c'est un hommage, effectivement, vous rendez à vos parents, mais aussi à toutes celles et ceux qui portaient l'école bleue, donc les ouvriers, ceux qui se levaient très tôt le matin, qui tentaient de vivre, mais surtout de survivre. C'était aussi une belle façon pour vous de vous reconnecter avec votre père qui a été pendant très longtemps contre vous dans le choix de la musique.
Alors mon père effectivement souhaitait que je sois ingénieur. Moi j'avais des rêves différents, des rêves plus éphémères. Je ne savais pas véritablement ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. Et effectivement ça a pu créer certaines tensions entre lui et moi, mais je crois que la boucle a été bouclée. Ce que voulait mon père, c'est que je sois heureux. Ce que voulait mon père, c'était une belle vie. Et je n'ai évidemment aujourd'hui rien contre mon père. Mon père est à côté de moi et je joue pour lui tous les soirs.
Il vous avait donné un conseil, c'était prends la mer et voyage. C'est un peu ce que vous avez fait quelque part, mais avec la musique. Bah oui, si réellement, quand il a disparu, vous lui avez tenu la main et il vous a dit on a les mêmes mains, mais toi tu as su les utiliser mieux que moi.
C'est le seul compliment qu'il m'ait fait, mais il l'a fait au moment où il partait. Et évidemment, ça a eu un impact extrêmement profond sur moi et c'est vrai, nous avions exactement les mêmes mains, de grosses mains.
Être artiste, selon vous, Shaggy et Sting, ça signifie quoi ? Est-ce que ça signifie aussi savoir élever sa voix pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas le faire ? Parce qu'il y a un message aussi politique dans ce spectacle, pour défendre justement ces cols bleus.
I think all art is political. Absolument, je pense que tout art a un message politique et c'est peut-être encore plus important aujourd'hui d'utiliser cette voix, de nous exprimer sur la vérité, l'état de droit, la démocratie, les droits humains, parce que tout cela peut disparaître. Donc nous avons cette responsabilité. Nous sommes des artistes politiques et le serons toujours.
Vous avez fait l'armée d'ailleurs, Shaggy. Vous avez été sur un terrain de guerre, vous avez fait la guerre du Golfe. Est-ce que vous êtes inquiet pour notre avenir, vous qui avez du sang aussi américain ?
La guerre, ça doit être la dernière des dernières solutions. Chaque blessé, chaque mort est une mort de trop. En tant que musicien, nous avons un rôle à jouer. La musique est une plateforme. Nous avons cette immense chance d'avoir cette plateforme. Alors nous devons l'utiliser pour faire passer un certain nombre de messages. Et parfois, on essaye de nous réduire au silence. Croyez-moi, vous pouvez nous faire taire, nous, mais pas notre musique. Donc même si vous vous débarrassez de nous, vous ne vous débarrasserez jamais de la musique. Bob Marley n'est pas là, mais sa musique est toujours là. Et son message est toujours là. Son message va survivre par-delà les générations, toutes les générations.
Merci Sting et Shaggy de passer dans le monde d'Élodie sur France Info. Vous êtes sur scène en ce moment ensemble pour la comédie musicale The Last Ship. La date de fin est fixée au 7 mars, date à laquelle vous allez vous envoler pour une tournée mondiale. L'album The Last Ship avec des titres rajoutés et donc disponibles en digital, en CD et en vinyle. À demain.
À demain. À demain. Gideon was born with inside of the shipyard. For son of a river to sun,
And Gideon was raised as the ship grew a shadow. A great hall would blood
out. Le monde d'Élodie avec Élodie Suigo, avec les chanteurs Sting et Shaggy. Toute cette semaine, c'est à retrouver sur franceinfo.fr. La météo, tout de suite. Et c'est avec Christine Peña à 5h29 sur France Info. Vous nous dites que le soleil et la douceur exceptionnelle s'imposent.
Oui, c'est exceptionnel. Hier, on a même eu très chaud, près de 30 degrés. Hein, 28,3, on va y arriver.
Ça nous fait bafouiller.
Ah, mais absolument, c'était au pied des Pyrénées. Entre Pau et Dax, il y a Orthez. C'est là qu'a été enregistré ce record. Hein. C'est vraiment un record de chaleur pour une fin février. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une petite table à boulevard des Pyrénées à Pau. La vue est incroyable, mais quelle chance vous avez.
Des bons conseils de Christine Peña.
Vous pouvez prendre une table également en terrasse à Paris, il pourra jusqu'à 20 degrés, on aura du soleil, la vue est pas pareille, on va dire.
Et puis, moins champêtre.
Non, moins champêtre. 17 degrés à Lille, on a ce soleil qui est vraiment sur tout le pays. Deux petites choses, des nuages bas qui limitent un peu la montée des températures, d'ailleurs en plaine d'Alsace, hein, ça va plafonner à 11-12 degrés du côté de Strasbourg. Et puis ces entrées maritimes en Méditerranée, là aussi, surtout sur le Languedoc-Roussillon, ça plafonnera à 16 degrés alors qu'il fera encore 24 sur la côte basque.
Merci beaucoup Christine Peña. D'ici 6 heures sur France Info, nous serons en ligne avec le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin alors que le site chinois Shein ouvre 5 boutiques aujourd'hui en France. Nous serons aussi à la frontière entre la Chine et la Russie, Pékin au secours de Moscou alors que l'économie russe est en difficulté après 4 ans de guerre en Ukraine. Et tout de suite, les crues qui se poursuivent malgré le mauvais temps en France, à la une d'un nouveau journal. Il est 5h30. Merci d'écouter France Info.
France Info. Maureen Suignard.
Près de 300 communes reconnues en état de catastrophe naturelle, annonce du Premier ministre après les crues des derniers jours. Des inondations toujours en cours, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime sont en vigilance rouge. Premier à être inondé et l'un des derniers à rester encerclé par les flots, le village de Bourdel en Gironde. Une cinquantaine d'habitants sont restés chez eux pendant les inondations, notamment Pierre, 94 ans, le doyen des sinistrés de la commune. Il s'est retrouvé avec plus d'un mètre d'eau dans sa maison.
Ah ben, c'est au maximum, puis on avait de l'eau en haut du portail, puis moi j'en avais un mètre dedans. Tous les meubles gonflés, tout, tapisserie, il y a un pierron, il y avait la porte là-bas. Voilà, mais fait bon, la maison est solide, mais dedans, ça fait cracra, hein. Voilà, en fait c'est comme ça. J'ai ma fille maintenant qui astique, qui n'en finit pas, mais on a remis de la boue. Mais c'est comme ça, on habite là. Il faut se remuer, tout, voilà. Il faut subir la nature.
Témoignage recueilli par Jules Brélaz, ici Gironde pour France Info. Et après les inondations, la chaleur, Christine Peña nous en parlait il y a quelques instants, des températures supérieures à 25 degrés et proches de 30 degrés enregistrées dans le sud-ouest de la France. Plusieurs records de chaleur ont été battus pour un mois de février, une douceur digne d'un mois de mai, précise Météo France. Y aura-t-il un droit à l'aide à mourir dans notre pays? Les députés votent aujourd'hui pour ou contre ce texte en deuxième lecture cet après-midi. Le résultat est incertain. Des députés de gauche ont souhaité aller plus loin ces derniers jours. Ils proposent que les malades aient le choix entre suicide assisté et euthanasie. Mais de nombreux soignants sont réticents. Le site internet Amazon annonce le retrait de vente d'un livre accusé de faire l'apologie de la pédocriminalité. L'ouvrage auto-édité Corps à cœur a été signalé à la justice. Une pétition demandant le retrait de ce livre avait recueilli plus de 60 000 signatures hier. 3 membres présumés d'un groupe d'ultra-droite visés par une procédure de dissolution ont été placés en garde à vue hier à Montpellier. C'est ce qu'a indiqué le parquet. Ce dernier les soupçonne d'avoir participé à l'agression de plusieurs clients d'un bar associatif à Alès dans le Gard en mai 2025. C'est ce qu'a indiqué donc le procureur d'Alès hier. Le retour au calme au Mexique, dans certaines régions tout du moins, après la mort dimanche d'El Mencho, un baron de la drogue. Des violences ont suivi sa mort dans l'état mexicain du Jalisco. 2500 militaires sont maintenant déployés. Les établissements scolaires rouvrent. La circulation et les activités peuvent reprendre, Gwendolina Duval.
Dans le centre-ville de Guadalajara, les commerces sont tous rouverts, presque aussi fréquentés que d'habitude. Après 2 jours enfermés chez elle, Rocio Ralas, une mère de famille, est sortie faire des emplettes.
Oui, j'ai peur, mais il faut bien sortir et aller à ces activités. Moi, je crois que la violence va continuer. On avait déjà vu des vagues de violence, mais jamais si fortes.
Au nord de la ville, il n'y a plus aucune trace des affrontements. Reynaldo est revenu travailler dans son atelier de mécanique au bord du périphérique, faisant confiance au discours des autorités.
Ils ont incendié quelques camions, on a fermé le rideau et on est parti, mais là ils ont déjà tout nettoyé.
Le souvenir des violences ne s'efface pas aussi facilement pour Cecilia Mendoza qui tient une épicerie à quelques pas.
Je suis toujours en train de guetter les ambulances, les patrouilles, je sursaute quand je vois une moto, j'ai peur. Car on a vu à la télé que c'est ainsi qu'allaient ceux qui lançaient des explosifs ou provoquaient des incendies. Non, vraiment, je ne suis pas tranquille.
La ville et ses alentours affichent une forte présence policière et les autorités assurent qu'il n'y a plus aucun risque, alors que Guadalajara doit accueillir le mondial de foot dans quelques mois.
Et ce matin, le patron de la FIFA, le patron du foot mondial, se dit serein sur l'accueil du mondial 2026 par le Mexique. La compétition débute le 11 juin prochain. Avant cela, il y a de la Ligue des champions de foot. Ce soir, le PSG sera face à Monaco pour un match de barrage retour pour une place en huitième de finale.
France Info, 5h-6h, Maureen Suignard.
Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims, après une première boutique installée au BHV à Paris et avec un peu de retard, Chine ouvre aujourd'hui 5 nouvelles boutiques dans des BHV en région. Le projet a pris du retard à cause du tollé à Paris. Les opposants à la marque chinoise d'ultra fast fashion ont dénoncé son impact environnemental. Puis il y a eu le scandale des poupées pédopornographiques en vente sur le site Chine. Pour Yann Rivoallan, le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, ce projet d'extension de Chine est voué à l'échec en France.
Je crois qu'il y a encore une démonstration que Frédéric Merlin, le propriétaire du BHV, croit encore en ses rêves. Pouvoir vendre Chine en boutique, en magasin est totalement impossible. Et il va clairement se confronter à la vraie réalité, la réalité à la fois de l'échec commercial devant lequel il est, mais aussi l'obligation de rembourser ses dettes, parce que n'oublions pas, il doit plus de 20 millions d'euros à des marques françaises. Il y a aussi de très nombreuses créances avec des dettes abyssales.
Ça peut permettre l'arrivée de Chine en région comme ça, de revitaliser des centres-villes qui se meurent. Vous n'y croyez pas ?
Non, c'est plutôt le pyromane en fait, qui fait croire qu'il va être un pompier. Parce que, n'oublions pas, c'est Chine qui a détruit la majorité des centres-villes dans chacune de ces villes. C'est Chine qui, depuis maintenant des années, met en place une concurrence déloyale qui a entraîné une baisse dramatique du commerce, des commerces indépendants qu'il y a dans tous les centres-villes. C'est près de moins 20% cette année. Chine se présente comme un chevalier blanc qui va ramener du trafic. C'est un double mensonge. Mensonge parce que on sait très bien, Chine ne vend qu'en ligne parce qu'il propose des prix qui sont illégaux avec des faux rabais. Et deuxième mensonge, c'est que à Paris, ça a été un complet échec. Et depuis des mois, Frédéric Merlin aurait pu faire évoluer l'offre à Paris. Il en est totalement incapable. Et donc, il arrivera vers le même échec, évidemment, dans ces 5 villes.
Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir un impact positif tout de même sur les autres marques ? Bon, c'est Chine qui l'avance, effectivement. Mais finalement, ça revient à dire... On vient pour Chine, on est curieux, on a envie d'y aller, on va voir. Et on va rentrer aussi dans les autres boutiques et donc faire vivre les autres enseignes.
Ça serait vrai si les gens venaient pour Chine. Or, pour Chine, désormais, c'est une marque qui vend des poupées pédocriminelles, qui vend des armes, qui vend des médicaments. L'image de Chine, en quelques mois, s'est complètement effondrée. Une image qui représente la réalité, malheureusement, de cette plateforme dramatique qu'on laisse encore vendre en France. Et donc, de ce fait, ça ne peut pas marcher dans ces BHV. Et je suis donc très inquiet pour ces 1000 salariés dans tous ces BHV qui voient justement l'échec qui va arriver devant eux.
Donc pour vous, ça ne peut vraiment pas marcher ?
Ça ne peut pas fonctionner pour une raison très logique. Sur le site de Chine, tous les jours, on a 10 000 nouveaux produits. Eh bien, en fait, Frédéric Merlin ne pourra en proposer que 100 fois moins. Et donc, il y aura 100 fois moins de choix dans ces BHV que dans chacun sur le site de Chine.
Il promet
donc
plus de choix en rayon quand même.
Il promet plus de choix, mais il n'aura que 500 mètres carrés. Sur ces 500 mètres carrés, on peut proposer à peu près 3000 références, mais qu'il ne va pouvoir changer au mieux que toutes les 3 semaines. Donc, en 3 semaines, Chine propose près de 200 000 nouvelles références. Donc, la proposition dans chacun de ces magasins sera très faible. Et en plus, les prix seront systématiquement plus élevés, tout simplement parce que Frédéric Merlin doit au moins payer la TVA, ce que ne fait pas le site de Chine.
Donc, on va vers la catastrophe.
Frédéric Merlin, c'est quelqu'un qui n'est même plus capable de payer des papiers toilettes pour chacun de ses magasins et qui demande à ses cadres de faire le ménage parce qu'il ne sait plus payer les sociétés de nettoyage. Donc, la société est au bord de la catastrophe. Elle va justement vers un échec phénoménal. Et cet échec, bien sûr, tous les salariés
sont morts de trouille quand ils voient l'emploi qu'ils risquent de perdre ces prochains mois.
Mais alors là, Chine semble avoir tiré les leçons donc, de ce semi-échec parisien, puisque la SGM évoque un partenariat expérimental cette fois-ci. Est-ce que ça peut changer les choses?
C'est pour mieux expliquer qu'ils vont arrêter d'ici quelques semaines, quelques mois, et qu'ils diront, vous voyez, c'était une expérience, on a tenté, ça n'a pas marché, mais on a essayé.
Vous pensez qu'ils vont faire la même chose justement en région?
Ils vont être obligés de faire la même chose, parce que ma plus grande crainte, c'est que ces BHV ferment d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et donc, il n'y aura même plus l'occasion de vendre du Chine ou de vendre la moindre marque de marque française, parce que ces magasins risquent de fermer à cause de toutes les dettes qu'a Frédéric Merlin. Et quand il va devoir les rembourser, évidemment, il ne pourra plus tenir.
Il y a deux semaines, Yann Rivoallan, l'État français a réclamé le blocage de la marketplace, la place de marché de Chine réservée aux vendeurs tiers. La Cour d'appel de Paris va rendre sa décision le 19 mars. Est-ce que vous espérez qu'elle approuve cette demande? Est-ce que ce serait déjà une première victoire pour vous?
Il y a déjà une première victoire qui est la baisse du chiffre d'affaires sur le site de Chine, parce que le site de Chine a baissé de près de 45% de chiffre d'affaires ces derniers mois, en partie dû justement à la fermeture de la marketplace qu'ils ont dû effectuer, et évidemment à côté de la mauvaise réputation que Chine a pris à ce moment-là. Désormais, sur la marketplace, ils ne mettent pas du tout tous les produits comme avant. Donc avant même que l'État français ne lance son procès, c'est déjà un premier succès, parce que Chine ne peut plus fonctionner comme avant.
Yann Rivoallan, dans le 21h minuit de Soisigbourg, le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Tous les deux parlaient notamment de la revitalisation des centres-villes, alors que de nombreuses communes voient les boutiques de centres-villes fermées. Dans l'ouest de la France, ce sont des supérettes préfabriquées qui fleurissent, les supérettes Happy, c'est leur nom, des petites cabanes en bois où tout est en libre-service. 150 ont vu le jour depuis 2022. Aujourd'hui, c'est par exemple dans le village de Louan, en Indre-et-Loire, qu'est inaugurée cette boutique Happy. L'entreprise charentaise se présente comme le défenseur du pouvoir d'achat et de la vitalité des campagnes, alors que 6 communes sur 10 n'ont pas de commerce de type épicerie. Une promesse tout de même ambitieuse et pas toujours évidente à tenir, Caroline Félix.
Rendez-vous devant la supérette Happy de Nouzilly, en Indre-et-Loire. Pour débloquer la porte, les clients doivent d'abord ouvrir leur application de smartphone.
Faut que je la retrouve. C'est pas souvent moi qui viens, c'est plutôt ma femme.
Joël Bénard est le maire du village.
Voilà.
Il scanne son QR code.
Allez-y, je vous suis.
À l'intérieur du mobilhome, 700 produits d'épicerie en rayon.
Ça fonctionne pas mal, si je vois qu'il y a des rayons de vide.
Bonjour madame.
Caroline prend un paquet de chips et un sandwich.
C'est pratique, ça dépanne bien, quoi. Surtout le dimanche par exemple, c'est tout le temps ouvert, quoi.
Elle le paye à la caisse automatique. Dans le bar d'à côté, Nicolas, père de famille, va lui aussi souvent à la supérette.
Entre 2 et 3 fois par semaine. Ouais. C'est vraiment le truc de la sortie d'école. 16h30, c'est le pic. Et
c'est plus que du bon dépannage, ouais.
Ça sauve même la mise quand il n'y a plus de charbon de bois pour le barbecue.
Ça lui évite 10 minutes de route jusqu'à une grande surface. C'est Happy qui a démarché à ce village sans épicerie bon marché. Le maire et son conseil municipal ont dit oui et voté 10 000 euros de travaux pour apporter la fibre et l'électricité.
Une petite dépense, mais qui n'est pas énorme par rapport à l'investissement. J'estime que c'est un service qu'on apporte à la population.
Mais derrière ce sympathique cabanon et son logo coloré, il y a un impératif de chiffre d'affaires minimum. Sur 150 villages, 4 ont ainsi vu leur supérette repartir. C'est le cas à Château-Larcher, à côté de Poitiers, un peu plus d'un an après l'inauguration en grande pompe.
Ils l'ont retiré le 3 février.
Le maire Francis Gargouille est remonté.
Oui, ça nous embête parce que, au départ, on y a cru. Hein. Et puis, à un moment donné, on s'est aperçu qu'il fallait avoir un chiffre d'affaires de 16 000 euros mensuel. Faut pas acheter que des petits trucs à 20 centimes. Faut y aller quand même. On est remonté à 11 000. Puis, vous voyez, ça s'est arrêté à ça.
À deux pas dans le salon de coiffure, Sandra a sa théorie sur la faible fréquentation.
Les personnes âgées, ils n'y allaient pas parce que c'était trop moderne pour eux, pour entrer en autonomie. Encore cet après-midi, j'ai des clientes qui disaient nous, on n'y allait pas parce qu'on avait peur de rester coincés dedans.
Les jeunes, eux, s'étaient habitués.
Ils se sont moqués les habitants, en fait.
Nous, ça nous manque. C'est sûr qu'on y allait très régulièrement pour se restaurer le midi, pour nos petites courses en débauchant. C'était très pratique.
Francis Gargouille reproche aussi le manque d'écoute.
Parfois, on leur disait il y a des rayons vides assez régulièrement. Je pense qu'ils auraient mieux fait d'en tenir compte. Ils sont là pour quoi? Pas pour défendre le commerce en milieu rural. Ils sont là pour faire du fric. On le voit bien dans les attitudes et tout ça.
Il a fini par obtenir le remboursement des travaux de fibre. On a fait des erreurs, concède la directrice générale de Happy, Marie-Laure Basset.
Typiquement à Château-Larcher, on est sur un flux routier vraiment trop faible et du coup sur un potentiel de clients pour la supérette qui est trop faible. Maintenant, on a affiné en fait nos critères d'implantation et sur presque toutes les ouvertures qu'on a fait en 2025, franchement, on a plutôt des très bons démarrages de supérette.
Marie-Laure Basset qui répond aussi aux reproches du maire de vouloir faire du fric alors que c'est une entreprise à mission.
On est dans une volonté d'atteindre une rentabilité pour pérenniser notre modèle. On n'est pas dans une course effrénée à la rentabilité pour rémunérer des actionnaires et se verser des dividendes. Non.
Les actionnaires préfèrent rester discrets. Parmi eux figurent Carrefour et une holding d'un héritier du fondateur d'Auchan. Happy continue de développer ses cabanons pour faire des économies d'échelle et vise la rentabilité en 2027.
France Info reportage de Caroline Félix. Après 4 ans de guerre, le président ukrainien assure que Vladimir Poutine n'a pas atteint ses objectifs et la Russie souffre aussi économiquement à cause des sanctions internationales. France Info reportage à la frontière entre la Chine et la Russie. Pékin, grand soutien de Moscou. On fait d'abord un tour complet de l'actu.
France Info. 5h-6h.
Il est 5h44 sur France Info et à la une ce matin, Sarah Derce. Qui pour remplacer Laurence Descartes?
La présidente du Louvre démissionne, l'Élysée accepte et salue un acte de responsabilité 4 mois après le spectaculaire cambriolage du plus grand musée au monde, sans préciser le nom de son ou sa successeur. Le ministère de la Santé va devoir rendre des comptes devant le Conseil d'État sur sa gestion du scandale du lait infantile contaminé. Une association accuse l'État de minimiser les risques et d'entraver la constitution de preuves. 4 enquêtes pénales en cours après la mort de nourrissons. 2 mineurs placés en garde à vue à Lyon, dont l'un est soupçonné d'avoir poignardé lundi un lycéen de 15 ans. La victime est toujours hospitalisée dans un état grave. En plein salon de l'agriculture, une annonce de l'Union européenne, une aide de 40 millions d'euros pour les viticulteurs en difficulté pour écouler leurs stocks.
France Info. Un vote à l'occasion d'un triste anniversaire. Le début de l'invasion russe en Ukraine il y a 4 ans, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté hier une résolution pour réaffirmer son soutien à Kiev. Un soutien aussi à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les États-Unis se sont abstenus. 4 années de guerre, des milliers de vies détruites. Côté russe, les experts estiment que plus d'un million de soldats ont pu être tués. L'économie est aussi touchée. Si elle tient face aux sanctions internationales, c'est essentiellement grâce à la Chine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les échanges ont explosé entre les deux pays. France Info reportage à la frontière entre la Chine et la Russie de Sébastien Berriot.
Le froid est glacial ce matin à Mandjoulie. Le thermomètre affiche moins 30 degrés, mais cela n'empêche pas une activité très intense autour du poste frontière avec la Russie. On voit des dizaines de semi-remorques chinois et russes qui font la queue pour passer la douane. Ce chauffeur chinois, lui, a déjà livré sa marchandise.
J'ai conduit mon camion depuis la province du Jiangsu, dans le sud de la Chine. Mes marchandises ont ensuite été transférées ici, dans des camions russes, pour être exportées vers la Russie. Regardez, là, ils font la queue pour le dédouanement. À l'intérieur, ce sont des marchandises chinoises, des vêtements et des produits de première nécessité.
Ce camion chinois revient tout juste de Russie.
Je suis rentré de Russie avant-hier soir. Le voyage aller-retour jusqu'à Moscou a duré environ 40 jours. J'ai vu de très nombreux camions chinois tout au long du chemin. Moi, j'ai transporté du tissu fabriqué en Chine et j'ai ramené des pâtes de poulet russes que je vais livrer à Chengdu.
Un peu plus loin, un immense terminal ferroviaire avec là aussi une activité qui a explosé depuis la guerre en Ukraine, offrant à la Russie une importante source de revenus. Ces riverains nous racontent ce qu'ils voient tous les jours.
Les trains en provenance de Russie transportent des engrais, du fer, du charbon et du bois. En général, plus d'une douzaine de trains effectuent le trajet aller-retour chaque jour. Chaque train comprend en moyenne une 50aine de wagons.
Dans le passé, très peu de chauffeurs routiers chinois se rendaient en Russie. Il y en a maintenant davantage. Avant, l'ancienne Union soviétique a aidé la Chine. Maintenant que la Russie est en difficulté, nous pouvons lui tendre la main.
Derrière le poste frontière, on remarque des centaines de voitures d'occasion qui sont stockées, des Mercedes, BMW, Volkswagen ou encore Peugeot, sans plaque d'immatriculation. Un client, puis un responsable, nous confirme que tout cela est destiné à l'export vers la Russie. Une aide chinoise, donc, qui permet à Moscou de contourner les sanctions occidentales sur les achats de voitures de marque étrangère.
Le reportage du correspondant de France Info en Chine, Sébastien Berger. Albert Rio. Voici l'heure du choix de France Info à 5h48. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique, slogan lancé il y a plus de 20 ans par l'assurance maladie et qui est toujours d'actualité. Globalement, la Sécu, les médecins cherchent à alléger le poids des médicaments sur l'ordonnance, mais ce n'est pas toujours facile d'arrêter un traitement qui n'est plus nécessaire. C'est ce qu'on appelle la déprescription. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Du service Sciences Santé de France Info. Arrêter ou alléger les traitements quand c'est possible, cela permet de limiter les effets secondaires et de faire des économies, mais beaucoup de médecins le disent, la déprescription des médicaments peut aussi être délicate que la prescription elle-même.
Oui, notamment pour les traitements comme les somnifères ou les antidépresseurs, car arrêter de prendre un médicament, même s'il n'est plus nécessaire, ce n'est pas anodin pour l'organisme. Un exemple, 2 millions de Français sont concernés par la dépression chaque année et parmi les patients soignés par antidépresseurs, 1 sur 3 rencontre un problème de sevrage à l'arrêt du traitement, avec des symptômes parfois violents comme chez cette patiente.
Pour moi, les symptômes de manque, ça a commencé avec la raideur au niveau du pied, de la main qui se recroquevillait, une douleur au ventre comme une énorme boule d'angoisse et surtout des frissons. Et c'est rajouté à ça beaucoup de perte d'équilibre, la tête qui tourne, environ, je peux vous dire, une cinquantaine de fois par jour. Dès que je me mettais debout, je risquais de tomber.
En accord avec son médecin, cette patiente a donc repris son traitement à dose complète pour qu'il soit arrêté par la suite plus progressivement. Ces réactions de sevrage s'expliquent par le fait qu'au démarrage ou à la fin d'un traitement, les adaptations du cerveau prennent du temps, explique le docteur Maëva Musso, psychiatre aux hôpitaux de Paris-Est-Val-de-Marne. Elle va bientôt tester justement à titre expérimental une nouvelle méthode plus progressive de sevrage des antidépresseurs.
On sait depuis, on va dire, fin des années 70 que ce syndrome de sevrage-là, il existe. Mais les doses qu'on peut trouver en pharmacie, qui sont commercialisées par les laboratoires, ne sont pas des doses suffisamment petites pour permettre cette décroissance. Où il faut que les paliers soient encore plus petits. Et le corollaire de ça, c'est de démontrer que les rechutes ne sont pas forcément des rechutes, mais en grande partie des syndromes de sevrage mal accompagnés.
Et pour cet essai, les premiers volontaires seront recrutés début 2027.
Et Anne, l'enjeu pour la santé est donc bien de réussir l'arrêt des médicaments. Mais dans la notion de déprescription, il y a aussi parfois la nécessité de revoir à la baisse le nombre de médicaments pris au quotidien, et cela notamment chez les personnes âgées.
Oui, chaque année en France, les interactions médicamenteuses sont à l'origine de plus de 200 000 hospitalisations. C'est un enjeu de santé publique et les autorités sanitaires communiquent d'ailleurs régulièrement sur le bon usage du médicament chez les personnes âgées. Même le LEM, qui représente l'industrie pharmaceutique, a lancé il y a quelques mois une campagne d'information sur le sujet.
Ça, c'est au réveil, ça avant le petit-déj, ça après, ça avant le déjeuner, ça pendant. Ça
réduisons avant... le volume. Au-delà de 5 médicaments par jour, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous pouvez en prendre moins.
Car rappelons que la moitié des Français de 65 ans et plus prennent plus de 5 médicaments par jour. Or, avec le vieillissement, les organes digestifs, les reins, le foie sont moins performants, ce qui entraîne une sensibilité accrue aux effets secondaires.
Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même des risques à alléger les traitements chez des personnes âgées ou fragiles ?
Tout à fait, mais une vaste étude française vient récemment de démontrer que supprimer certains médicaments sans effet négatif pour la santé, c'est possible. Cette grande expérimentation s'est déroulée dans plus d'une centaine d'EHPAD durant plus de 3 ans. L'objectif était de voir s'il était possible de supprimer certains médicaments pour réguler la tension chez des résidents âgés, explique le professeur Athanase Benetos. Il est gériatre au CHU de Nancy.
La question à laquelle on voulait répondre, c'est est-ce que chez ces gens-là, qui ont plus de 80 ans et qui sont très fragiles, on a la possibilité de réduire le traitement antihypertenseur de façon progressive.
Plus de 1000 seniors volontaires ont donc participé à l'étude. Alice Metz est infirmière de recherche. Elle nous dresse par exemple le profil d'une patiente.
Eh ben, j'ai donc sous les yeux Pierrette, âgée de 84 ans. Cette patiente
avait 13 médicaments par jour dans son pilulier, dont 4 contre l'hypertension.
Nous avons vu que les 4 traitements antihypertenseurs pouvaient éventuellement être diminuée ou arrêtée. Et après, il y a les visites médicales avec des évaluations gériatriques, des tests sur la mémoire, des tests sur la marche. Et puis, il y a des visites infirmières qui nécessitent surtout la prise de tension.
Et cette étude, on en connaît désormais les résultats. Pour chaque patient, il a été possible de retirer en moyenne un traitement contre la tension par jour, sans conséquences négatives, ni sur la mortalité, ni sur la qualité de vie, ni sur le risque de chute. Mais attention, rappelons encore une fois qu'aucun traitement ne doit être arrêté sans un avis médical.
Le choix de France Info, signé Anne Le Gall ce matin, et c'est à réécouter sur l'application Radio France. Ils se sont séparés il y a 5 ans, et pourtant ils sont de retour. Daft Punk, le duo masqué, sort un clip pour un titre phare. Sarah Ders nous raconte dans la liste de France Info dans moins de 5 minutes. D'abord, il n'est pas question de musique électronique, mais d'actu économique. 5h53, c'est l'heure du réveil de l'écho. Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Toute l'actualité économique en 3 titres tous les matins avec vous Emmanuel. On commence avec la construction de maisons individuelles qui repart à la hausse.
Oui, les constructions ont nettement rebondi l'année dernière, plus 33,5% pour atteindre un total de 67 800 maisons neuves vendues, soit 17 000 de plus sur un an. Ce sont les chiffres communiqués par la Fédération française du bâtiment. La FFB attribue ce regain d'intérêt pour les habitations individuelles à l'élargissement du prêt à taux zéro, qui facilite notamment l'achat par les primo-accédants. Toujours selon la Fédération professionnelle, quelques 18 000 prêts à taux zéro supplémentaires ont été accordés l'année dernière. Et pour cette année, 2026, donc, le secteur table sur une hausse de 10% des ventes de maisons individuelles neuves pour se rapprocher des 75 000 ventes au total.
Deuxième actu du matin, le fabricant de stylos, briquets et rasoirs Bic voit ses bénéfices plonger.
Oui, pour le moins, résultat net en chute de 60%. L'année dernière pour le groupe français à 86 millions d'euros. Bic invoque une année très difficile avec un net ralentissement des ventes de stylos et briquets aux États-Unis, les deux activités principales de l'entreprise. Outre ses difficultés commerciales de l'autre côté de l'Atlantique, Bic a également souffert d'une dépréciation liée à l'arrêt de son activité tatouage.
Et puis Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, passe un accord stratégique avec un fabricant de composants électroniques.
Oui, le géant des réseaux sociaux va en effet acheter des millions de puces au fabricant américain de semi-conducteurs AMD. Ce nouveau contrat montre et confirme l'appétit de Meta dans le développement de l'intelligence artificielle.
Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Réindustrialiser la France en fonction des territoires, de leurs compétences et leurs spécialités pour lutter contre les plans sociaux. C'est ce que préconise un rapport de la Fondation Jean Jaurès. Anticiper, diagnostiquer, prioriser pour redynamiser les territoires. Voilà qui pourrait donner quelques idées aux maires qui vont être réélus ou élus lors des prochaines élections municipales.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny et à tout à l'heure. Il est 5h56 sur France Info lors de la playlist avec Sarah Ders ce matin. Et ce matin aussi, les Daft Punk de retour avec un clip inédit. Et cela, malgré leur séparation il y a 5 ans.
Pas un nouveau morceau, mais un clip officiel illustrant Human After All, le titre phare et éponyme de leur 3e album studio, paru il y a déjà 21 ans. Cet album minimaliste, enregistré en seulement 6 semaines, mêle guitare lourde et électronique brute. Mais ces images, vous les connaissez sûrement. On y trouve le duo casqué de la French Touch à bord d'une voiture roulant dans le désert, une esthétique science-fiction. Ce sont des extraits de Daft Punk Electroma, leur film sorti la même année en 2001. Il avait même été sélectionné au Festival de Cannes.
Et d'ailleurs, Sarah, ce retour inattendu tombe à pic.
C'est le 25e anniversaire de Discovery, l'album qui a tout changé pour Thomas Bangalter et Guy Mann avec ce banger, ce tube.
Ouais, ça me dit quelque chose, hein.
Et puis en 2013, Random Access Memories et son hit planétaire Get Lucky leur valent 4 Grammy Awards, dont l'album de l'année. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning?
Alors avec ce nouveau clip, est-ce un signe, un message codé, la réunion des robots? En tout cas, l'un des Daft Punk, Thomas Bangalter, vient d'annoncer une collaboration avec l'artiste JR pour transformer le Pont Neuf à Paris en caverne sonore pendant 3 semaines en juin.
Merci Sarah Ders pour la playlist de France Info. Et puis on est chanceux, la météo arrive avec Christine Peignard.
On peut laisser les Daft Punk?
On ne peut pas laisser les Daft Punk, Christine.
Oh, c'est dommage.
Mais vous nous donnez quand même de bonnes infos avec ce temps très ensoleillé et très doux.
Très festif ce temps. Effectivement, nous avons ce soleil avec nous, même au nord. Il y a quelques nappes de brouillard quand même qui se répartissent sur la moitié nord et notamment en plaine d'Alsace. Elles vont se montrer tenaces du côté de Strasbourg. Du coup, elles vont empêcher cette douceur de s'installer. Il fera entre 11 et 12 degrés. Ça va vraiment plafonner pas plus haut. Allez, 14 au maximum du côté des plaines d'Alsace pour cet après-midi, alors que partout ailleurs, les températures s'envolent. Il y a des nuages également vers la Méditerranée. Là aussi, ça plafonnera entre 16 et 17 degrés, alors que dans le sud-ouest, soleil, ciel totalement dégagé. Dans le centre, au nord également, nous avons des températures qui vont plafonner à 17 degrés du côté de Lille, 20 degrés à Paris, 21 à Clermont-Ferrand. Dans le sud-ouest également, de 21 à 24 degrés, voire 25 du côté de la Côte Basque, c'est là où il fera le plus chaud. On aura certainement un peu de record encore. Ce sera en tout cas la journée la plus chaude de la semaine au niveau national.
Merci beaucoup Christine Peignard. Bon, enlevez tout de même vos lunettes de soleil, Adrien Beck, un peu de sérieux pour débuter le 6-9.
Vous enlevez votre chapeau.
Bonjour Adrien.
Bonjour Maureen, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver effectivement pour votre 6-9. Bonjour Christine Peignard.
Bonjour.
Donc, de la chaleur et du soleil, on a bien compris. Je salue également Solène Cresson.
Bonjour Solène. Bonjour.
On retrouve dans quelques secondes pour le journal. Oui. Je vous donne juste un rendez-vous avant cela. Faut-il faire le ménage dans nos ordonnances? Trop de médicaments pris parfois trop longtemps et même des